Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, avec Margot Agnès et aujourd'hui c'est Alexandre Cagzan qui est à la technique de l'heure du crime et à la une de notre émission. On en parlait tout à l'heure avec Christelle Rebière et Vincent Parisot juste avant les infos. C'est l'affaire Stéphane Camenier, une affaire sur laquelle plane un mystère qui continue encore aujourd'hui depuis maintenant 5 longues années. C'est l'affaire qui concerne donc la disparition, dans un premier temps, d'un garçon de 24 ans, un jeune étudiant très brillant, d'origine camerounaise, diplômé de l'École des Arts et Métiers de Châlons en Champagne. Il assiste dans la nuit du 6 au 7 décembre à la fête de l'école. On reviendra sur les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette fête où plus de 2000 personnes étaient invitées à un grand bal. Et puis, le lendemain, on perd sa trace. Il ne se rend pas chez ses parents. Tout le monde s'inquiète, bien sûr. Et on va retrouver, malheureusement, le 24 décembre suivant, le corps de ce garçon à plus de 2 mètres de profondeur dans un canal assez éloigné de son école. Dans un premier temps, c'est la piste de l'accident, de la chute accidentelle d'un garçon qui avait peut-être trop bu. C'est ce que retiennent les enquêteurs au départ. Et puis, il va y avoir un certain nombre de rebondissements au cours de ces derniers mois et ces dernières années qui font que maintenant, c'est la piste criminelle. Et là, on change de registre qui est retenu, en tout cas par la famille de Stéphane, et aussi par l'avocat de la famille, maître Didier Seban. Samuel Camogne, le père de Stéphane, est avec nous aujourd'hui en direct dans ce studio. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Il est important pour vous, bien sûr, qu'on continue à parler de ce mystère de façon à délier des langues. Je crois que ce que vous souhaitez, c'est ça.
C'est notre démarche, c'est l'objectif de notre démarche.
Ouais. Alors, on va revenir dans un instant sur la personnalité de votre fils. Maître Didier Seban est là également. Bonjour, maître.
Bonjour.
Vous confirmez que la piste criminelle est vraiment privilégiée maintenant par vous, par la famille, par les enquêteurs?
Écoutez, c'est ce qu'on espère, hein, puisqu'il a fallu 3 expertises pour qu'on aboutisse à des conclusions suivant lesquelles c'était certainement à terme de coups extrêmement violents, de fracas, on parle de fracas osseux, que Stéphane était mort et non pas du tout d'une chute accidentelle d'un pont.
Voilà, on expliquera tout à l'heure pour quelles raisons justement vous privilégiez cette piste criminelle. Jean-Alphonse Richard est avec nous. Bonjour Jean-Alphonse.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Vous suivez cette affaire également pour RTL depuis maintenant 5 ans ?
Absolument, oui, avec nos correspondants dans l'Est de la France. Et effectivement, au début, c'est une histoire, il faut dire, qui ressemblait vaguement à un accident. Hein. C'était la piste qui était privilégiée par les enquêteurs. Piste qui laissait quand même quelques doutes, vu les circonstances dans lesquelles avait pu disparaître Stéphane Camenier. On va y revenir, sûrement. Mais effectivement, c'est une enquête au long cours, une enquête qui n'est pas terminée, comme vient de dire Maître Seban. Et si cette enquête est toujours ouverte, il faut bien le dire tout de suite d'entrée, c'est grâce à la pugnacité effectivement de Maître Seban et grâce à la volonté farouche de la famille de ne pas voir refermer ce dossier qui était tout près d'être très rapidement refermé, trop rapidement.
Et on peut aussi citer, elle n'est pas avec nous cet après-midi en direct, le travail considérable qu'a fait Maître Corinne Herman, donc du cabinet de Maître Seban. Samuel Camogne, d'abord, je pense que il serait utile de revenir en quelques mots sur la personnalité de votre fils. 24 ans, élève brillantissime, diplômé d'une école d'ingénieurs prestigieuse, qui travaille déjà à l'époque de ce drame comme consultant informatique à Paris avec un très bon salaire. Et c'est un garçon, c'est un colosse. 1m90, 100 kilos.
Bon, merci. Permettez qu'avant de le présenter, donc que je présente dans mes voeux à RTL et toute son équipe, ainsi qu'à vos auditeurs, et vous remercie pour tous ceux qui peuvent nous aider à connaître la vérité par leur témoignage, et surtout ceux qui, ce jour-là, ont assisté donc à cette fête.
Vous dites ça parce que, on va le dire clairement, il y a une sorte d'omerta. Enfin, il semble que il soit très difficile d'obtenir des informations concrètes, alors que plusieurs dizaines de personnes ont certainement vu quelque chose cette nuit-là qui pourrait faire avancer l'enquête. Alors, Stéphane, lui, il fait une partie de ses études au Cameroun, une partie en France.
Oui, donc Stéphane est né à Paris le 14 juillet 1984, après 2 ans. Dont toute la famille est repartie au Cameroun. Mmh. Après 10 ans, donc moi je suis revenu ici. Eux, ils m'ont rejoint 5 ans plus tard, le reste de la famille. Quand Stéphane est revenu ici, Stéphane est directement intégré à la classe terminale, où il a poursuivi normalement ses études comme il a toujours fait, brillamment.
Il a présenté les concours.
Il était admis.
Grandes écoles, oui.
Il y a plusieurs classes préparatoires. Parmi ces classes, on avait choisi du Legrand, où tout s'est aussi très bien passé. Donc, il a intégré l'École nationale supérieure des arts et métiers, l'INSAM, à Chalon, que nous avions choisi. Chalon, tout simplement, c'était plus proche de Paris, et puis qui pouvait revenir régulièrement à la maison. C'était la seule raison pour laquelle on l'avait choisi, Chalon. Mm-hmm. Bon, à Chalon, ça s'est bien passé. Après 2 ans, bon, il était retenu pour passer un autre diplôme d'ingénieur pendant donc, son parcours aux États-Unis, mm-hmm. où il est allé.
À Atlanta, oui.
Oui, mm-hmm. à l'université Georgia Tech Atlanta. Ça s'est aussi très, très bien passé, où il a même ajouté à son diplôme. Pratiquement un autre diplôme qui était lié donc aux finances.
Et c'est donc, un garçon qui, tous les témoignages de ses amis, de ses collègues, des autres étudiants, de tous ceux qu'il a rencontrés au cours de son parcours, vont tous dans le même sens. C'est quelqu'un de calme, d'ouvert, de brillant, évidemment, intellectuellement, mais aussi c'est un garçon sans histoire.
Non, de ce côté, on n'a jamais eu le moindre souci depuis la maternelle. Partout il est passé, que ce soit avec des élèves, que ce soit à la maison ou avec des voisins, bien au contraire. Ah ouais. C'est quelqu'un qui était très sociable. Et d'ailleurs, pour preuve, quand il s'est retrouvé à Atlanta, eux, ils partageaient dans un appartement avec d'autres Gaza, eux qui venaient de Cluny, qui ne se connaissaient pas. Mais celui qui accueillit tout le monde et leur témoignage, quand nous on a fait une soirée de veillée ici, bon, en dit long. Il les encourageait, même quand il a par exemple... De ne pas baisser les bras et de tout faire pour passer. J'ai d'ailleurs un témoignage d'un de ses camarades qui dit que sans lui, il aurait abandonné l'INSAM. Voilà.
Et quelqu'un qui n'est pas un bagarreur, je pense que c'était important à dire, parce qu'après, il va y avoir des hypothèses, évidemment, sur ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Encore, juste un mot, on reviendra plus en détail sur le parcours de Stéphane tout à l'heure, mais cette nuit du 6 au 7 décembre, il est diplômé, il est invité à cette fête de l'école, et c'est bien naturel, puisque c'est sa promotion, hein, je crois, par l'école.
Exact, exact. Mmh. Donc, que ce soit aussi à l'INSAM, il était très sociable vis-à-vis de ses camarades et vis-à-vis même tout ce qui pouvait concerner l'école. Il passait quand même qu'il participait à toutes les activités que son temps lui permettait donc de faire à l'école. Et on n'a jamais eu, même pendant tout ce temps-là, nous on a deux recueils de témoignages. Au nulle part, personne ne parle, même qu'il y ait eu le moindre problème entre lui, autre, que ce soit verbal, parce que lui, il fuyait tout ce qui pouvait être brutal, qu'il soit physique ou verbal. Oui. Ça, c'était pas du tout. Il préférait carrément abandonner que de rester même à cet endroit-là.
Voilà, je pense qu'il était très important et utile aussi de parler de la personnalité de ce garçon, victime d'un événement qu'on ne peut pas encore vraiment cerner. Il y a beaucoup de questions et de zones d'ombre dans ce dossier. On y vient dans un instant après une première pause avec Jean-Alphonse Richard dans un premier temps. Bien sûr, si vous êtes dans cette région de Chalon en Champagne, si vous avez rencontré ou si vous connaissiez Stéphane ou si vous l'avez vu au cours de cette soirée-là, vous imaginez bien que tous les témoignages sont attendus avec beaucoup d'intérêt par la famille de Stéphane, par son avocat et bien sûr par la police judiciaire de Reims qui continue à mener l'enquête. 3210 si vous avez donc un témoignage ou des questions à poser, c'est le standard téléphonique d'RTL. RTL.fr si vous préférez nous envoyer un courriel. À tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Alors, Jean-Alphonse Richard, on reviendra tout à l'heure très en détail sur tout ce qu'on a pu apprendre sur le déroulement de cette soirée du 6 au 7 décembre. Mais si on reprend le film des événements, comment on a constaté la disparition de Stéphane, ça commence le lendemain, le 7, je crois que sa maman l'appelle et son téléphone est sur répondeur.
Absolument, ça va assez vite. Le 7, donc le lendemain de cette fameuse soirée de remise de diplôme, évidemment, la famille cherche à joindre Stéphane.
Après, il y a un repas qui est prévu.
Oui, un peu, il y a un repas familial. On l'attend, la famille est réunie, on l'attend. Puis Stéphane ne vient pas, évidemment. Le téléphone sonne dans le vide, donc il y a une inquiétude qui est tout à fait légitime. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on fait une chose classique, c'est-à-dire qu'on va appeler tout d'abord les hôpitaux. On va faire le tour des hôpitaux, on va se renseigner pour savoir s'il n'aurait pas eu un accident, s'il y a un malaise, etc. C'est une soirée un peu arrosée. Bon, on se dit peut-être pas réveillé, ou pas, peut-être pas au bon endroit, etc., etc. Et puis on finit par prévenir tout de même la police. À partir de là, se met en place un système de recherche somme toute assez classique. Mmh. On n'est pas du tout à ce moment-là dans la piste de l'homicide, hein,
oui,
ou de l'acte
sûr.
Criminel. Mmh. On songe plutôt à encore une fois à un accident, quelqu'un qui aurait trop bu, etc. Mmh. Donc il va y avoir des battues. Hein, des battues autour de la région de Châlons, des battues dans la neige auxquelles participe d'ailleurs la famille de Stéphane. Mm-hmm. Tout ça est assez pénible. Il va y avoir
dans les canaux également.
Dans les canaux, il va y avoir effectivement les plongeurs des sapeurs-pompiers qui vont être mobilisés pour sonder, pour fouiller les canaux. Puis on trouve rien.
Oui.
On trouve rien.
Oui.
Et finalement, on baisse un peu les bras. Peut-être trop rapidement, mais le fait est c'est que le 13 décembre, c'est-à-dire très peu de jours après la disparition de Stéphane, le 13 décembre, eh bien, on cesse tout simplement les recherches, on arrête les recherches.
Ouais.
Et il faudra attendre la veille de Noël, le 24 décembre, pour que le corps de Stéphane soit enfin retrouvé dans un canal latéral de la Marne,
qui est assez éloigné de l'école.
Assez éloigné. Ouais. Alors le corps, c'était à 14h30. Hein, les sapeurs-pompiers découvrent le corps qui est à 2m40 de profondeur. Et ensuite, l'enquête proprement dite va pouvoir réellement commencer.
Voilà. Et évidemment, vous êtes tout de suite étonné, Stéphane Camogne, parce que qu'est-ce que votre fils aurait été faire dans cet endroit-là particulier qui est à l'opposé du centre-ville, hein, on peut dire. Donc, vous trouvez déjà bizarre, vous, le lieu où on découvre son corps.
Disons qu'il y a... Les premières choses qui nous ont beaucoup frappé, quand on est arrivé à l'école, on était un peu surpris par la précipitation des élèves pour venir parler à la police. À peine qu'on avait apporté les clés et que la police venait d'ouvrir les portes. Ça, on était un peu surpris.
Bon.
Surtout que chacun essaie de déclarer ce qu'il voulait. C'est un peu comme s'ils avaient été programmés pour faire déclaration. Il y en a qui vont dire qu'on l'a vu, il était habillé comme si c'est habillé comme cela.
Mm-hmm.
Moi, je l'ai vu le matin, dans quelqu'un qui pouvait être lui, mais ainsi de suite. Mm-hmm. On était un peu surpris par cette façon de faire. Bon, après cela, juste donc le samedi, le samedi 13, donc j'ai demandé à rencontrer le président de l'association des élèves, à qui j'ai proposé de faire une marche, d'organiser une marche silencieuse. Bon, et je lui ai expliqué que c'est tout simplement parce que, comme à ce jour, on n'a aucune piste, on n'a même pas trouvé un début de piste. Bon, c'est aussi une autre démarche, comme n'importe laquelle. Bon, le suite, donc, il a approuvé, et on s'est mis d'accord. L'école devait s'occuper donc de préparer le parcours, et c'est la famille qui devait demander l'autorisation de marche au préfet. Ce que moi j'ai fait le 16, j'ai été reçu par le préfet qui me l'a accordé tout de suite. Et à ma grande surprise, le président de l'association des élèves m'a dit dans la soirée qu'il n'est pas allé voir la police parce que l'école ne les a pas libérés pour faire la marche.
Oui, d'accord. Donc, on va revenir sur ce point-là.
C'est
que
l'impression que ça commence.
Que l'école est gênée aux entournures, on va dire, par cette.
Et en même temps, quand on s'est vu samedi, j'avais constaté que sur les grilles de l'école, rien n'était affiché sur les grilles de l'école. Donc, pas la photo de mon fils à l'école. À la limite, tout se passait comme l'école n'était pas du tout concernée. Ouais. Si rien ne s'était passé à l'école. Ça, c'est des choses qui m'ont vraiment frappé au départ.
Ouais. Alors, on parlait de 24 décembre, malheureusement, les recherches reprennent et on découvre le corps de votre fils. Et Jean-Alphonse Richard, il est habillé.
Oui, deux petits points très importants. Ouais. Tout d'abord, il faut dire que sa voiture n'a pas bougé.
Oui, on l'a retrouvé sur le parking de l'école.
On retrouve sa voiture sur le parking, il y a sa veste à l'intérieur de la voiture sur la banquette arrière, rien n'a bougé, etc. Et effectivement, lorsqu'on découvre le corps de Stéphane, et il a sur lui ses papiers d'identité, il a de l'argent, ses cartes de crédit, ses clés, etc.
Son téléphone en particulier.
Et son téléphone,
Ben, on peut en déduire très facilement qu'il n'a pas été agressé pour son argent ou pour essayer de le voler, ça c'est clair.
Mais encore faut-il attendre l'autopsie pour essayer d'en savoir plus. Et il y a donc une information, cette fois judiciaire ouverte pour recherche des causes de la mort. Et cette première autopsie va déboucher sur un scénario auquel la famille ne croit pas. Et Maître Sebon va nous en dire un mot dans un instant. Selon donc les enquêteurs, Stéphane aurait chuté d'un pont sur une berge. Le corps aurait peut-être rebondi. Alors il aurait chuté parce que il était ivre et qu'il urinait. Puisqu'on a trouvé la braguette ouverte de son pantalon sur le corps. Mais donc la famille ne croit pas à ce scénario. Et une deuxième autopsie est demandée, et ça on va en venir aux explications dans un instant, mais d'abord entendre vous-même, Jean-Alphonse Richard, sur cette décision de faire une deuxième autopsie, vous donniez vos explications sur RTL. Écoutons.
Cette deuxième autopsie aura lieu dans quelques heures à l'Institut médico-légal de Paris. Une contre-expertise destinée à lever les mystères qui entourent toujours, selon ses proches, la mort de Stéphane. Le premier médecin légiste n'avait pas décelé de coup, simplement noté que cet étudiant très sportif, 108 kilos, serait tombé d'un pont se fracassant la colonne vertébrale. Le corps n'avait été retrouvé que 17 jours plus tard. La famille ne croit pas à l'accident et n'exclut pas un bizutage qui aurait dégénéré. Le père de Stéphane, Samuel Camenier, a insisté pour que l'enquête continue. Il espère beaucoup de cette deuxième autopsie.
Ça peut permettre de savoir plus. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Je n'ai toujours pas de réponse. Je voudrais savoir et comprendre ce qui s'est passé. Bon, il est mort de toute façon. Quel que soit ce qui peut être fait, il ne me le ramènera pas. Mais au moins, je voudrais faire un vrai deuil de mon fils.
Le parquet de Châlons-en-Champagne affirme pour sa part avoir demandé ce nouvel examen dans un simple souci de transparence.
Et cette deuxième autopsie va déboucher sur un important rebondissement. On en parle dans un instant après une nouvelle pause avec Maître Didier Seban. À tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
On revient sur l'affaire Stéphane Camenier, la piste criminelle envisagée maintenant, et vous allez comprendre pourquoi avec mes invités. Je rappelle que Samuel Camenier, le père de Stéphane, est avec nous, Maître Didier Seban, qui est l'avocat de la famille, et Jean-Alphonse Richard, qui dirige le service police-justice d'RTL, et qui suit cette affaire depuis 5 ans, comme il a dit tout à l'heure, avec le correspondant, notamment Samuel Goschmidt et d'autres dans la région. Alors, on parlait des autopsies. Avant de vous laisser la parole, Maître Seban, sur le rebondissement important de la deuxième autopsie, il faut dire un mot sur la première. En gros, le légiste ne constate pas de plaies ni de coups, pas de traces de violence. Il note donc cette braguette ouverte qui va emmener les enquêteurs vers l'hypothèse de quelqu'un qui urine, qui a bu un verre de trop et qui va perdre l'équilibre et tomber sur la berge. On comprend pas trop comment après on peut de la berge à tomber à l'eau, hein. Bon, et puis il y a ce traumatisme thoracique qui est quand même repéré dans cette première autopsie. La deuxième autopsie va avoir lieu peu de temps après, à votre demande et à la demande de la famille. Et alors, qu'est-ce que constatent les nouveaux experts?
Oui, C'est un dossier qui quand la famille nous contacte, nous trouble. Ben, nous trouble parce que ce garçon est un garçon extrêmement fort, puissant. On sait qu'il a bu, comme tous les étudiants, ce soir-là, c'est une fête. Mais quand on nous parle d'un accident, on constate tout de suite deux choses qui nous troublent. La première, c'est que son portable s'est arrêté très tard dans la matinée, 8h45.
La matinée du 7 décembre,
dans la matinée du 7 décembre.
Ouais. Ça, c'est la téléphonie qui le prouve.
Voilà. Donc, à partir du moment où il est dans l'eau, le portable arrête de fonctionner. Ouais.
Ça veut dire, pardonnez-moi, qu'on soit bien précis, ça veut dire que le portable de Stéphane a activé des bornes qui se trouvent dans cet endroit de la ville, quoi.
Proximité, oui.
D'accord. Jusqu'à 8h45.
Et puis, quand on l'examine, on sait qu'il s'est arrêté de fonctionner à 8h45. C'est troublant. 8h25. Exactement. Et c'est troublant parce que ça ne correspond pas aux témoignages qui disent qu'on l'aurait peut-être vu jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. On peut penser qu'entre-temps, il a naturellement pu dessouler. Et puis, quelqu'un l'aurait vu à cette heure-là tomber dans le canal. Donc, il y a deux hypothèses possibles. Soit, effectivement, à 8h25, il est dans l'eau et le portable s'arrête de fonctionner. Soit, il n'avait plus de batterie et s'est arrêté bien plus tard à un autre moment.
Mais il faut savoir aussi, je ne l'ai pas précisé, que dans la première autopsie, il est constaté que ça n'est pas une noyade.
Il
était mort avant de tomber à l'eau. Voilà. Donc ça, c'est très important pour la suite.
C'est évidemment très important. Ouais. Il ne s'est pas noyé en tombant à l'eau.
Voilà.
Et il y a un énorme fracas costal, c'est-à-dire que pratiquement toutes ses côtes sont brisées, certaines vertèbres sont brisées. C'est encore une fois un garçon très athlétique. Alors, l'expert conclut qu'il aurait pu tomber sur une pile de pont ou sur le bord du pont d'abord, se tuer comme ça, et puis terminer sa course dans l'eau une fois mort. Ça nous paraît tout de suite troublant parce qu'on n'a jamais vu un corps, ça ne rebondit pas.
Avant la deuxième autopsie.
Et c'est pour ça qu'on dit il faut quand même aller plus loin, il faut chercher tout ça. Et le deuxième expert, lui, s'appuie sur ce fracas costal, tout le dos est brisé, mais vraiment brisé extrêmement violemment, en disant ça ne peut, on imagine qu'un choc brutal qui aurait causé ça, et ce choc brutal, ça doit venir d'un véhicule.
C'est pas une chute, c'est plus
C'est pas une chute.
Disons que ce n'est pas l'expert qui dit que ça vient d'un véhicule. Mm-hmm. C'est le juge d'instruction qui maintenant choisit la piste du véhicule.
L'expert dit que ça n'est pas impossible que ce soit un véhicule. Et là, on a tout de suite une deuxième question. On part de problèmes concrets. Il n'y a pas de route qui soit juste à côté du canal au point qu'un véhicule puisse pousser un corde sur le canal. Donc, il a fallu que, si on retenait cette hypothèse...
Qu'il y ait un accident
et que quelqu'un...
Un délit de fuite et que quelqu'un se soit débarrassé
de la victime. Corps, et ça n'est pas, encore une fois, il pèse plus de 100 kilos. Il faut au moins être deux pour le porter. Et si c'était un accident, il aurait lieu à 8 heures du matin. Oui. À cette heure-là, il y a du monde. Ça circule. Oui. Près de l'ENSAM, il y a à ce moment-là 2000 personnes qui sont en visite. Donc on aurait vu cette scène. Donc ça nous trouble une deuxième fois cette situation. Donc on demande deux choses, et là, le juge nous l'accorde, c'est tout à son honneur. On demande que soient examinés les vêtements de Stéphane, et on demande que cette expertise soit soumise au contradictoire d'autres experts. Et là, c'est un nouveau rebondissement. D'une part, les vêtements de Stéphane portent des traces qui font penser à des coups. C'est une veste en velours. Et il y a des traces, je dirais, qui brisent le tissu, qui sont très claires aux endroits où Stéphane a été blessé, où ses côtes ont été cassées, où ses vertèbres. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième, c'est que l'expert nous dit que c'est un peu incompatible, quelle que soit la hauteur du véhicule, avec un accident, parce que les blessures sont trop hautes.
Accidentologues confirment que quand une personne est renversée par une voiture de ville, il y a des fractures aux membres inférieurs, ce qui n'est pas le cas.
À la tête et au bras, alors que là, il n'a rien.
Alors, il n'a rien à la tête.
Et donc ces traces-là et les blessures sur le corps amènent l'expert à dire il a sûrement été battu à mort, et battu à mort peut-être donne-t-il l'hypothèse avec une batte de baseball ou quelque chose qui puisse y ressembler. Donc c'est évidemment là où nous en sommes et ce qui nous interroge fortement.
Alors voilà, et ce qui incite évidemment les enquêteurs et la famille évidemment de Stéphane à revenir sur les circonstances de cette nuit du 6 au 7. En quelques mots, quelles sont les plus importantes informations que vous ayez eues, Monsieur Camagne?
Alors, donc, la chance qu'on a eue, donc, ce jour, le lundi 8, quand nous, on est allés à Chalon, le matin, j'avais essayé d'appeler un peu tous ses amis, dont j'avais trouvé ce numéro de téléphone dans sa chambre. Et pendant qu'on était sur l'autoroute, bon, j'étais avec mon épouse, c'est là qu'on a reçu, donc, la description du séjour, ce week-end-là, de Stéphane, par une de ses amies de promotion qui, elle, était déjà rentrée. Donc, elle va nous dire qu'elle a quitté la salle de fête vers les 2h30 du matin et qu'à son départ, ils avaient convenu avec l'un des amis de la promotion à qui Stéphane avait proposé de le ramener à Paris parce qu'il était venu en train. Et comme il avait voyagé avec la voiture de sa maman, il avait proposé, mais il s'était mis d'accord de revenir à Paris ensemble. Alors, donc celui-là était censé soit le reconduire à l'hôtel pour qu'il finisse sa nuit ou à sa voiture. Bon, mais ça aussi, ça, c'était une surprise. Derrière, cet ami va nous dire qu'on conduit plutôt dans un local, bon, qu'on appelle bibliothèque, mais qui est une salle pratiquement abandonnée de l'école. Donc, il n'y a rien, c'est une salle vraiment...
Clairement, c'est parce qu'il avait, effectivement un peu trop bu et que, on l'a incité à aller se reposer, comme l'avait fait au cours de la soirée d'autres étudiants dans cet endroit-là.
En tout cas, ce qu'il y a, c'est que lui, il a refusé d'y aller. Et cet ami m'a dit qu'il était bien conscient, qu'il savait ce qu'il voulait, était bien conscient de ce qu'il voulait. Donc, non, quand ils sont arrivés dans la salle, lui, il a refusé de rester dans la salle. Il dit qu'il restait un peu avec lui, comme ils étaient deux. Bon, il est resté avec lui. Après un moment, il me dit c'est calmé. Bon, pourquoi il était excité? J'en sais trop rien.
Et là, on est vers 2h du matin, quoi.
Oui, donc ça doit être vers 3h du matin, disons, vers 3h du matin. Bon, il le laisse dans la salle, il va revenir une heure plus tard, il n'est plus dans la salle.
Voilà.
Et c'est là qu'il va aller le chercher partout, sans le retrouver. Mais il prend son train, il part. Bon, ça veut déjà dire à l'école, dans la recherche, donc, ça, il ne me l'avait pas dit. Personne n'est allé de voir si sa voiture était encore là. Sa voiture est garée dans l'école. Sur un parking, et ce parking est censé être protégé.
Et il faut dire qu'aucune investigation de police scientifique n'a été faite dans cette voiture. Non. Je reviens à vous, Jean-Alphonse, Richard, sur ce que les témoignages ont apporté sur cette fameuse nuit. Il y a quelque chose qui, à la lumière de la deuxième autopsie, prend toute son importance. Quelqu'un ou plusieurs personnes disent qu'il y a eu, vers 4h ou 5h du matin, une altercation avec des vigiles.
Oui, c'est... Alors, il faut dire, là, sur ce point-là et sur ces heures-là, on est un petit peu en pleine zone grise. C'est une zone en pointillé. Les témoignages ne sont pas forcément très concordants. Ils n'ont pas été recueillis très, très spontanément. Tout ça perle petit à petit dans l'enquête. Bon, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a ce témoignage qui est très, très intéressant et très pointu, qui dit que, sur le coup, dès 3-4 heures du matin, Stéphane, qui avait bu, mais comme ont bu tous les étudiants, la soirée était un petit peu destinée à ça, était un petit peu énervé. Donc il est sorti très probablement de ce local, de cette salle, en tout cas de l'école, et là il a eu une altercation avec un vigile qui surveille effectivement
qui l'aurait expulsé.
Alors il aurait refusé d'être empoigné, il aurait demandé de ne pas qu'on ne le touche pas comme ça, etc. Bon, là une altercation assez banale somme toute. Le vigile l'aurait effectivement expulsé de l'école manu militari, l'aurait reconduit avec quand même une certaine fermeté. Voilà, ça c'est un témoignage qui dit ça, mais à aucun moment, ce qu'il faut dire, quand même très précisément, c'est que
il n'y a pas de témoignage
qui dit on a vu Stéphane être véritablement agressé ou frappé. On n'a pas ce témoignage dans l'enquête. Ça, il faut être clair.
Mais enfin, à la lumière de
c'est très troublant.
On peut se poser des questions.
Oui, et puis on va mettre du temps surtout à éclaircir ce point. Ça va pas être immédiat.
Alors, on va faire une pause et ensuite on va donner la parole à Samuel Kamen, qui vous écoutait, qui a des choses à nous dire. On se retrouve dans un instant.
Jacques Pradel sur RTL. et l'heure du crime.
Alors là, bien sûr, on revisite les étapes importantes de l'enquête. On reviendra dans un instant avec Jean-Alphonse Richard et avec Maître Seban sur ce que sont devenues les pistes qui se sont ouvertes à ce moment-là. Mais d'abord, Samuel Camagne, donc vous vouliez ajouter d'autres informations que vous avez eues sur le déroulement de cette fameuse nuit.
Oui, donc également, ce que j'allais ajouter, c'est qu'on a été également un peu surpris parce que tout le monde nous a accueillis en disant qu'il avait bu. En dehors de ça, personne ne nous a rien dit d'autre de ce qui s'est passé ce jour-là à l'école.
Donc ça, on était un peu surpris. L'autopsie a trouvé 1,90 g d'alcool. Hein. Oui. Mais il faut remettre ça dans le contexte de quelqu'un qui fait 1,90 m, 100 kilos. Okay. Tous les spécialistes disent qu'il y a le taux d'alcoolémie, mais en même temps, la tolérance à l'alcool qui est différente pour chaque personne.
D'accord. Bon. Et également, par rapport à l'organisation de la fête, l'objectif était d'éviter que les gens de l'extérieur rentrent à l'école.
C'est pour ça qu'il y avait des vigiles.
On nous dit, la porte du parking et la caméra qui surveille tous les mouvements sur le parking, la caméra ne fonctionnait pas. Ah. Et la porte du parking est restée ouverte que cette nuit-là. D'accord. Comme par hasard, c'était tombé en panne que cette nuit-là. Bon, le gardien de l'école, va ajouter, pendant d'ailleurs que la police est venue pour regarder la voiture. Et lui, il vient, il dit, non, de toute façon, ce soir, quand lui a fait sa tournée, le dimanche, soit dans la veille, à 19h30, cette voiture n'était pas à cet endroit-là. Il n'y avait pas ça sur le parking. Mmh. Et à sa grande surprise, la voiture était là quand nous, on est arrivés. Les portes verrouillées.
Ouais. Or, on a trouvé les clés de la voiture sur le corps de Stéphane. Donc, vraisemblablement, il aurait bougé sa voiture.
Ce qui nous fait nous poser la question... ayant trouvé les clés de voiture dans la porte de Stéphane quand de la sortie de l'eau le 24 décembre, ça voudrait dire que si on a bougé le véhicule, ça veut dire qu'on a bougé le véhicule avant qu'il ne soit rentré dans l'eau. Oui. Maintenant, qui a bougé le véhicule? Il n'y avait aucune raison que celui bouge son véhicule, qu'il revienne encore déposer ça à l'école.
Donc ça, c'est une question, effectivement, de plus. Alors, pour répondre à ce que je disais tout à l'heure, Jean-Alphonse, sur l'exploitation de ces informations, qu'est-ce que c'est devenu?
L'exploitation, elle est très lente et parcellaire. Il faut bien dire ça, que tout ça est très émietté. C'est-à-dire que les témoignages, ils ne vont pas être véritablement sollicités par les enquêteurs. On part, répétons-le et soyons très clairs là-dessus, on part sur quelqu'un qui a trop bu, qui a eu un accident. À partir de là, il y a ce postulat qui a été posé et ça va être très long pour se défaire de ce postulat. Donc les témoignages, que deviennent-ils? Eh bien, pas grand-chose, ils sont enregistrés par la justice, mais il faut bien dire les choses très clairement, ils ne deviennent pas grand-chose. Il y a des vérifications qui sont très très parcellaires, on ne va pas aller jusqu'au bout des choses. Maître Seban, je pense, va pouvoir compléter ce que je dis, et finalement on va avoir cette tentation presque ces dernières semaines de vouloir refermer ce dossier. Parce qu'on n'a pas fait grand chose, soyons clairs.
C'est pas le moment, quand même.
Pas trop de langue de bois, quand même. Non, on n'a pas fait grand chose.
C'est pas le moment, quand même.
Pas vraiment le moment.
Maître Seban, alors.
Oui, il y a des milliers de témoins, au fond, de ce qui a pu se passer.
Il y a 2000 personnes présentes dans la nuit, et à 4-5 heures du matin, quand il y a cette altercation avec les vigiles, on évalue à au moins une centaine de personnes, les étudiants, qui sont toujours là.
Oui, et puis il y a du monde dans la ville. Il y a du monde dans la ville. Tout le monde rentre chez soi. Se déplace, on s'est retrouvés, donc il y a beaucoup de jeunes, et on va ressentir, nous, un très fort blackout. Du côté des vigiles, qui auront beaucoup de mal à expliquer l'incident et ce qui a pu se passer. Ouais. Du côté des étudiants, là, c'est plus troublant. Alors, c'est peut-être la tradition de l'école des Khazars.
Alors, écoutez, je vous interromps parce que là, évidemment, comme on sait, les éditeurs peuvent nous laisser leurs réflexions ou nous poser leurs questions au standard, là, au 3210. Là, on a Evelyne qui habite à Châlons, en Champagne, qui est technicienne, et qui dit ceci, je lis sa fiche, l'école des Khazars, donc c'est l'école des arts et métiers, est une véritable secte. Si on ne suit pas les règles, on en est vite écarté. Personne n'ose parler de cette école. Ça corrobore
Oui, on va même désigner, pour parler à la presse, un représentant de la promotion. Personne d'autre n'aura le droit de parler à la presse.
Ah,
donc on est à ce niveau-là. Pourtant, c'est des jeunes. Et évidemment, Stéphane faisait partie de... Alors, il y a beaucoup de rites. Je ne veux pas rentrer dans les arts.
Il y a des rites de bizutage,
etc. De fin de promotion, de tout ça, où il y a quelquefois un certain nombre de violences. Et on peut imaginer que dans une situation d'alcoolémie un peu forte, ça ait pu déraper.
Bon. Alors ça, on va voir ça dans un instant ensemble de façon plus précise, parce que tardivement, c'est pour ça qu'il n'est jamais inutile de revenir sur un dossier comme nous le faisons aujourd'hui, des années après les faits, parce qu'il y a des personnes tout simplement qui sont pas au courant ou qui ont pas fait attention. Et là, il va y avoir un témoignage très important quand même d'un livreur de journaux dont on va parler dans un petit instant après une pause.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
C'est la dernière partie de notre émission consacrée à cette affaire qui demeure mystérieuse, qui est pleine de questions et de zones d'ombre, 5 ans après la disparition, puis la mort constatée de ce jeune étudiant de 24 ans, Stéphane Camogne, retrouvé au fond d'un canal alors que il n'y a pas de traces de noyade, avec une vraie difficulté à la fois pour les enquêteurs, pour la famille, pour les avocats, d'obtenir des informations. Et on va parler de cette atmosphère d'omerta avec mes invités. D'ailleurs, cette question de l'omerta ou de la rétention d'informations est telle que très régulièrement la famille de Stéphane a organisé à Chalon, à Reims, à Paris, des marches en mémoire de Stéphane, mais surtout des marches destinées à éventuellement susciter de nouveaux témoignages qui pourraient relancer l'enquête. C'est ce qui s'est passé à Chalon le 25 septembre 2009, et Samuel Goldschmidt suivait cette manifestation pour RTL.
Presque 10 mois après la mort de Stéphane, pas grand-chose n'a bougé dans l'enquête. Le dossier est bien ouvert au parquet de Chalon, mais le père du jeune ingénieur, Samuel Camenier, ne croit pas à la bête noyade accidentelle d'un jeune homme éméché après le gala des arts et métiers.
Cette mort, pour nous, a causé une blessure que je pense que même si quelqu'un me fusille en face, ça ne me ferait rien. Il ne méritait pas ça. C'était un enfant à 24 ans et demi, on a connu 24 ans et demi de bonheur. Son hygiène de vie ne nous amène à avoir aucun doute de son comportement. Mon fils n'a jamais touché à de la drogue, à des histoires comme ça. Mon fils, c'est pas quelqu'un qui se saoulait. Si je pouvais même avoir quelque chose qui me permettait d'avoir une excuse que ça soit arrivé, je n'en trouve pas. Et c'est ça qui est vraiment plus difficile à vivre.
Car Stéphane était un étudiant surdoué, ingénieur bardé de diplômes, et surtout, il y a cette contre-autopsie qui a révélé un choc au niveau de la cage thoracique du jeune homme. Sa famille a donc défilé à nouveau avec une centaine d'élèves en grand uniforme pour relancer un appel au moindre témoignage sur cette soirée du 7 décembre.
Alors, difficile d'obtenir des témoignages. Un mot, peut-être, on en parlait hors micro avec vous, Samuel Camogne, qui montre quand même le souci de cette école de ne pas être mêlée à cette affaire, ni de près ni de loin. Un exemple, la police vous demande, notamment, parce que l'appel à témoins est très important, est-ce que des gens peuvent dire s'ils ont vu ou non Stéphane cette nuit-là ou cette matinée-là, et vous fournissez à la police une photo prise au cours de la soirée.
Oui, donc j'avais fourni dans le 9, dans 48 heures après la disparition de Stéphane, j'ai fourni à la police de Chalon plusieurs photos de lui prises dans la journée de samedi et dans la salle de gala. Mmh. Mais à ma grande surprise, la photo qui était utilisée pour l'appel à témoins, donc certainement c'est un des élèves qui a dû prendre cela, soit sur le site internet, puisqu'il pouvait avoir accès dessus. Lors de cette photo concerne donc la remise de diplôme aux États-Unis un an auparavant.
À l'université d'Atlanta, oui.
À l'université d'Atlanta,
et
aux États-Unis.
C'est cette photo d'un an
qui a été utilisée pour faire l'appel à témoins. Bon, une fois de plus, je peux dire pour moi, c'est encore une façon pour l'INSAM de faire montrer que ces fans n'est pas du tout concerné par eux. Mmh. Alors que même chez des anciens élèves, il avait des photos de lui. Datant pendant qu'il a passé 2 ans à l'école, puis c'était résident dans l'école,
et ces photos-là
avant d'aller aux États-Unis.
Oui, et ces photos-là donc, n'ont pas été.
Personne n'a jamais utilisé ça.
Oui. Didier Seban, dans le la continuité de ce qui vient d'être dit sur l'implication ou non de l'école ou de certains étudiants. Il y a un témoignage qui va arriver, qui va être un nouveau rebondissement dans l'affaire. C'est un livreur de journaux qui apprend finalement tout cela beaucoup beaucoup plus tard. Il apprend qu'on cherche ce garçon et qu'on se pose des questions sur ce qui s'est passé dans la nuit du 6 au 7 décembre.
Si oui, oui. Peut-être, je peux ajouter. Version du discours de journaux est faite suite à la publication du troisième rapport d'autopsie qui dit qu'il était battu à mort.
Ah voilà, parce qu'il y a eu
à la suite de ça, une troisième autopsie, oui.
Et ça paraît dans le journal, et lui, il lit le journal. Oui. Alors peut-être un mot, Didier Semon, sur cette troisième autopsie d'abord.
Oui, bon, ouais. La troisième autopsie, donc elle va conclure très clairement au fait qu'il a reçu plusieurs coups violents qui ont brisé à la fois ses côtes et ses vertèbres, et que ces coups peuvent être... ont laissé des traces sur l'ensemble du tissu de sa veste.
Ce que vous disiez tout à l'heure, oui. Donc, ça pourrait être une batte de baseball.
Ou quelque chose comme ça, ou pourquoi pas quelque chose qui puisse être lié à une forme de bizutage, on ne sait pas, et qui aurait mal tourné encore une fois. Oui. Et au fond, ce témoignage va montrer que ce témoignage tardif.
Ah oui, alors donc ce livreur de journaux lit l'article concernant ce que vous venez de dire.
Et il arrive et il dit voilà, j'étais vers 5 heures du matin, je allais dans une rue juste à côté de l'ENSAM pour livrer mes journaux. Mm-hmm. Et puis, qu'est-ce que je constate à ce moment-là? Je constate que il y a un groupe de jeunes, 5-6 jeunes qui sont regroupés autour d'un grand morceau de bois.
Sorte d'effigie de l'école. Voilà. Ouais.
Alors j'ai pris peur et ce jour-là, j'ai pas livré mes journaux, je suis rentré chez moi.
D'accord. Donc ça veut dire que l'ambiance était inquiétante, quoi. Électrique. Voilà, électrique. Ouais,
et,
voilà.
Il a pris peur. Ouais. Et nous, on pense tout de suite et on regarde les traditions des Khazars et on pense tout de suite à deux choses. Le premier, c'est qu'ils ont souvent une grande cuillère en bois qui s'appelle une zatouille. Bon, et on se dit, est-ce que ça serait pas cette cuillère en bois, puisqu'il décrit une forme de cuillère.
Elle est carrément de taille humaine, hein, voilà. Quasiment. Hein,
très grande. Ouais. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que du coup, il y a des groupes de jeunes qui circulent et où est à ce moment-là Stéphane, dont on puisqu'il était en danger, on nous dit qu'il avait beaucoup bu. Comment peut-on imaginer que par solidarité, on ne se soit pas occupé de lui? Qu'on les chassait de l'école. Oui. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, deuxièmement, on s'aperçoit que chaque promotion a ce qu'on appelle une clé d'ex, qui est aussi une effigie de l'école, une effigie de la promotion. Oui. Et c'est la seule clé dont on ne retrouve pas la trace. On en retrouve la photo, mais dans le journal, dans la revue qui les répertorie, on dit celle-là a disparu.
Elle a bien été fabriquée. Celle de sa promotion.
C'est un objet très important. Qu'on l'ait perdu, c'est quasiment invraisemblable. Je veux dire qu'on ait perdu celle-là, justement.
Parce que ça aurait pu être une arme, donc, utilisée comme une arme.
C'est très lourd, c'est très gros, ça pèse un poids important, mais il y a quelque chose de bizarre dans à la fois ce témoignage qui nous parle de cette zatouille, et ce sont des effigies qu'on sort quand il y a la fête de l'école, normalement, qu'on met en
donc
avant.
Donc ça renforce, en fait, toutes les questions que vous posez, et surtout, ça vous renforce dans l'idée qu'il y a des gens qui savent quelque chose et qui ne le disent pas, quoi.
Oui, en tout cas, ce qui est sûr, parce que la question qu'on est arrivé à se poser à la conclusion suivante, mais s'il y a l'omerta sur ce qui s'est passé ce soir-là, au début, les élèves sont précipités pour essayer de parler, mais on s'est posé la question pourquoi ils sont précipités pour parler. C'était plutôt pour donner leur version à eux. Mm-hmm. Mais maintenant qu'on leur demande, parce qu'il n'y a rien. Et puis notre souci également est qu'on a du mal à comprendre que malgré cela, à ma connaissance, à ce jour, la justice n'a pas essayé de confronter même les incohérents dans les différentes dépositions qui ont été faites. Parce que chacun est venu raconter ce qu'il avait envie de raconter sans aucune contrainte. Mm-hmm. Donc, je me pose la question, est-ce que c'est ça vraiment une enquête?
Alors justement, Jean-Alphonse Richard, vous qui avez l'habitude de parler des enquêtes criminelles, il manque, il y a des zones d'ombre aussi de ce côté-là.
Il y a des zones d'ombre, il y a des interrogations. Puis il y a une équation très simple qu'on vient de rappeler. 2000 personnes à l'école ce soir-là, zéro témoignage. Quand vous faites cette équation, c'est
zéro, quelques-uns.
Oui, enfin, des miettes de témoignages. Et quand vous faites cette équation, vous avez quand même vite compris la problématique de cette histoire. Et après, effectivement, là, je rejoins totalement le père de Stéphane. C'est qu'il y a des vérifications banales, basiques, qui n'ont pas été faites, des confrontations, etc. Peut-être du bornage téléphonique qui est un petit peu défaillant. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Il reste du travail.
Et peut-être aussi mettre ce bord, je parle sous votre contrôle et sous celui de Samuel Camagne, 2012, il y a un étudiant qui est blessé au cours de la même soirée, dans les locaux de l'école.
Pendant la même fête, parce qu'ils ont plusieurs fêtes dans l'année. Ouais. La même fête.
Ouais. 2013, il y a un étudiant qui décède à la suite d'une bagarre.
Au mois de juin. Au mois de juin dernier, oui.
Au point que ça a affolé les autorités.
C'est intéressant de savoir comment ça s'est passé. Ouais.
Qui ont demandé, maintenant, la Croix-Rouge est en permanence sur place quand il y a ce type de fête. Mais, au fond, ce qu'on peut dire, et ce qui est important pour nous, et ça commence à venir depuis la dernière émission télévisuelle, c'est que les témoignages peuvent encore compter, et nous en avons qui commencent à venir. Les Khazars, l'honneur des Khazars, c'est aussi de nous aider à trouver la vérité sur les conditions de la mort de ce jeune.
Oui, parce qu'il faut dire que de notre côté, journaliste et spécialiste d'affaires criminelles, l'équipe de l'émission Non Élucidée, a consacré un numéro spécial dimanche dernier. Nous avions prévu, par ailleurs, nous ne savions pas que cette émission allait avoir lieu, et tant mieux, en fait, qu'on se retrouve aujourd'hui sur RTL, dans l'espoir, évidemment, c'est l'espoir que vous partagez avec votre épouse, que des témoignages arrivent.
Exact.
Je vous remercie.
Excusez-moi, donc, j'allais tout simplement ajouter ceci, c'est que si le dossier de mon fils avait été normalement traité, je pense que les morts ou les incidents qu'il y a eu à l'INSAM n'auraient pas continué.
Peut-être pas continué, absolument. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. C'était pas facile.
En tout cas, merci à vous.
Pour vous. Merci beaucoup, Didier Seban. Merci, Jean-Alphonse Richard, qui vous ont éclairé sur ce dossier.
Merci à vous. Merci.
Toujours mystérieux. On espère que le mystère ne durera pas trop longtemps et que la justice et la police fera son travail.
Notre démarche.
L'émission est terminée. Dans un instant, on retrouve Flavie Flamand, comme chaque jour.